L'Odyssée géographique, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire dédié à la géographie et à la géopolitique. Si vous êtes passionné par les voyages, l'aventure, la découverte de nouvelles cultures et l'actualité internationale, soyez les bienvenus à bord. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième chronique consacrée aux pionnières. Après les sables du désert et les neiges de l'Himalaya, je vous invite aujourd'hui à prendre la direction d'une rédaction new-yorkaise. Au XIXe siècle, le journalisme est une activité essentiellement masculine où les femmes ne sont pas autorisées à écrire des articles et à mener des enquêtes. Dans l'ambiance enfumée des salles de rédaction des années 1880, une jeune femme au caractère affirmé, qui n'a pas peur de défendre ses convictions, pousse la porte du New York World en proposant un sujet d'investigation. Ayant eu la chance de tomber sur un grand nom de la presse qui est impressionné par cette jeune femme, elle est rapidement remarquée par la qualité de son travail. En 1889, elle entame un tour du monde sur les traces de Phileas Fogg. Elle bouclera ce tour du monde en 72 jours et, à son retour, elle sera accueillie à New York comme une véritable rockstar. Je vous présente aujourd'hui l'intrépide Nellie Bly, globetrotteur et journaliste d'investigation. Nellie Bly, l'investigation en bandoulière, c'est tout de suite dans l'Odyssée géographique. Attrapez votre chapeau et votre passeport, le voyage commence. Une pionnière de l'investigation journalistique. Elizabeth Jane Cochrane, plus connue sous le nom de Nellie Bly, voit un jour le 5 mai 1864 dans le comté d'Armstrong en Pennsylvanie. Son père décède alors qu'elle n'a que 6 ans. Son pseudonyme, Nellie Bly, provient d'une chanson de Stephen Foster, le père du folk song. Elle décroche son premier poste au sein du Pittsburgh Dispatch. Suite à un article qu'elle juge sexiste et rétrograde, elle écrit au rédacteur en chef pour s'en indigner. Trouvant que la jeune femme a une plume prometteuse, il lui propose d'écrire un article. S'il le juge intéressant, il l'embauchera. Ce qui est chose faite quelques jours plus tard. Son premier reportage d'investigation, à proprement parler, se fait dans une usine de conserve. Elle y décrit les terribles conditions de travail des ouvrières où règnent la saleté et le manque de sécurité. Cet article connaîtra un grand succès et dopera les ventes du Pittsburgh Dispatch. La rédaction d'articles consacrés au monde ouvrier devient sa spécialité. Mais, malheureusement pour elle, le lobby industriel fait pression sur sa rédaction. Nellie Bly se retrouve ainsi à la rubrique artistique du journal. En 1886, elle part, en compagnie de sa mère, découvrir le Mexique. Elle en profite pour rédiger une série d'articles où elle décrit la vie politique et culturelle des Mexicains. Dans ses articles, elle mettra en avant l'image faussée qu'ont ses compatriotes du peuple mexicain et finira par se faire expulser du Mexique. Son internement à Roosevelt Island. En 1887, elle postule auprès de plusieurs rédactions prestigieuses de la place new-yorkaise, dont le New York World. Elle propose au rédacteur en chef du World de faire un reportage sur un asile réservé aux femmes qui est situé sur Roosevelt Island et qui s'appelle Blackwell's Island Hospital. Elle réussit à simuler la folie pour y être admise. Elle découvre alors une terrible réalité lorsqu'elle arrive au pavillon des aliénés. Elle découvre un monde froid, austère, déshumanisé. Il règne un froid glacial au sein des bâtiments qui renforce l'aspect sordide du lieu. Nellie Bly découvre ainsi une réalité à mille lieues de ce qu'elle pouvait imaginer. Elle pensait qu'elle se trouverait au sein d'un hôpital fonctionnant de manière classique et où la dignité humaine serait respectée. Les infirmières n'hésitent pas à recourir aux sévices en giflant celles qui ne respectent pas les consignes. Cette maltraitance est une réalité qui sidère Nellie Bly. Les relations entre les femmes internées peuvent être particulièrement tendues. Dès le premier soir de son internement, Nellie Bly se fera voler une partie de son repas par une autre patiente. À son arrivée, elle aura droit à un bain glacé avant d'avoir à revêtir une combinaison sur laquelle est écrite le nom de l'hôpital psychiatrique ainsi que le numéro de l'aile dans lequel elle est enfermée. Elle va rester 10 jours internée au sein de cet asile. En arrivant, elle a un carnet où elle note tout. Malheureusement, ce carnet lui sera confisqué au début de son séjour. Dans ce récit, Nellie Bly parle de femmes dont certaines sont présentes depuis des années au sein de l'établissement. Plus troublant encore, elle parle de patientes qui lui paraissent parfaitement saines d'esprit. De cette expérience traumatisante, Nellie Bly en tire un article qui aura un très fort retentissement. Les lecteurs du New York World découvrent les conditions sordides dans lesquelles vivent des patientes qui ont été placées là pour des troubles psychiques. Suite à cet article, une enquête officielle va être menée par les autorités sanitaires. Cette investigation, menée par les pouvoirs publics, confirmera les dires de Nellie Bly. Par la suite, le Blackwell's Island Hospital recevra une dotation exceptionnelle afin d'améliorer les conditions d'accueil des patientes. Son tour du monde sur les traces de Phileas Fogg. Nellie Bly est une aventurière dans l'âme. C'est donc, tout naturellement, que lui vient l'idée de faire un tour du monde. Pour pimenter ce projet, elle est persuadée qu'elle peut le réaliser dans un délai plus court que le célèbre Phileas Fogg créé par Jules Verne. Certaine de tenir une très bonne idée d'article, la jeune femme en parle à son rédacteur en chef, puis au directeur commercial du World, qui est l'incarnation des préjugés sexistes de l'époque. « Vous n'y arriverez jamais, vous êtes une femme, vous aurez besoin d'un protecteur, et même si vous voyagiez seule, il vous faudrait emporter tant de bagages que cela vous ralentirait. En plus, vous parlez uniquement l'anglais. Rien ne sert d'en débattre. Seul un homme peut relever ce défi. » Si le directeur commercial oppose dans un premier temps une fin de non-recevoir, Nellie Bly dispose tout de même du soutien de son rédacteur en chef, qui n'est d'autre que Joseph Pulitzer. Pulitzer, qui a donné son nom au plus prestigieux prix récompensant les journalistes d'investigation. Le 14 novembre 1889, à 9h40:30 précisément, Nellie Bly quitte la baie de New York à bord de l'Augusta Victoria. Au début de son voyage, Nellie Bly connaîtra les affres du mal de mer et racontera cette mésaventure avec beaucoup d'autodérision dans le récit de son tour du monde. Sa première étape européenne se fait à Southampton, où son bateau accoste. Elle fera brièvement un crochet par la France, et plus précisément par Amiens, où elle rencontre Jules Verne et son épouse. Au cours de cet entretien, Jules Verne lui expliquera comment lui est venu d'écrire Le Tour du Monde en 80 jours, et son dénouement se jouant sur une question de méridien. Le trajet de Nellie Bly empruntera une route quasi similaire à celle de Phileas Fogg, à la seule différence que la jeune femme ne fera pas escale à Bombay. Après son escapade amiénoise, Nellie Bly reprend le chemin du sud de l'Angleterre en passant par Calais avant de mettre le cap sur l'Adriatique. Son étape suivante la conduit à Port Saïd, qui est un port situé au nord-est de l'Égypte, à l'entrée du canal de Suez. Pour mémoire, les travaux du canal de Suez ont débuté en avril 1859 et se sont achevés en novembre 1869. Au cours de sa traversée, Nellie Bly parle des coutumes que l'on qualifierait aujourd'hui de misogynes, mais qui reflètent les mentalités du XIXe siècle. En effet, lorsque les températures nocturnes étaient élevées, il n'était pas rare que certains passagers passent la nuit à la Belle Étoile sur le pont. Dans ce cas, le pont est coupé en deux, avec une séparation homme-femme. Lors de la traversée de la mer Rouge, Nellie Bly constatera que les femmes n'ont pas le droit d'accéder au pont avant 8h le matin, permettant ainsi de profiter de la fraîcheur matinale. Lors de l'escale à Aden, Nellie Bly aura l'occasion, avec certains de ses compagnons de voyage, de se promener dans les montagnes environnantes. Elle en profite pour décrire les femmes qu'elle croise sur son chemin. « Je vis des femmes qui cheminaient fièrement, pieds nus sur la route. Leur chevelure d'ébène était rehaussée d'une longue plume teinte en rouge, vert ou violet. Leur seul accessoire était cette plume colorée qui leur donnait un air noble à côté des habitants de la ville couverte de pierreries. Elles ne portaient que cela. C'est vrai, mais dans un endroit aussi chaud qu'Aden, les bijoux sont bien assez à porter. J'étais véritablement charmé à la vue de ces créatures splendides. » Après 5 jours passés à Colombo, capitale de l'actuel Sri Lanka, le périple se poursuit en direction de Singapour, via le golfe du Bengale et la mer d'Andaman. Dans cette région, les territoires de Penang, Ding Ding, Malacca et Singapour étaient administrés par la Compagnie anglaise des Indes orientales, fondée en 1826 et dissoute en 1946. La traversée du détroit de Malacca est particulièrement éprouvante pour les passagers en raison de la moiteur ambiante. L'air était suffocant, brumeux et humide, si bien que tout se mettait à rouiller, y compris les clés gardées dans nos poches, et les miroirs embués ne renvoyaient plus aucun reflet. Nellie Bly se trouve à Hong Kong à Noël 1889. À ce moment-là, elle a mis 34 jours pour traverser la moitié de la planète. Tout au long de son récit, la journaliste intrépide ne manque pas de dépeindre les personnes qui l'accompagnent, comme cet Anglais ventripotent et misogyne qui, au beau milieu d'une tempête, enfile un gilet de sauvetage et écope l'eau de sa cabine à l'aide d'une boîte de cigares. Au moment où le Victoria, le bateau sur lequel elle navigue, entre dans le port de Hong Kong, un coup de canon retentit. Il s'agissait d'une coutume pour célébrer l'arrivée des navires transportant le courrier britannique. Arrivée à Hong Kong, Nellie Bly apprend qu'une autre journaliste, Elizabeth Bisland, relève le même défi que le sien et qu'elle pourrait boucler le tour du monde dans un délai plus rapide. À Hong Kong, Nellie Bly se pâme devant les beaux jeunes hommes célibataires qu'elle croise et écrira même « Les filles, partez à l'Est pour trouver un mari. » Au cours de son escale, elle a l'occasion de découvrir Happy Valley et son hippodrome. L'armée britannique a établi un camp militaire sur l'emplacement de Happy Valley, qui était appelé à l'époque Wong Nai Chung Valley. De nombreux marécages se trouvaient à proximité, ce qui a provoqué de nombreux cas de paludisme. Devenu un cimetière géant, ce site a été rebaptisé, par euphémisme, Happy Valley. Dès le XIXe siècle, Nellie Bly constate qu'il y a une forte densité de population à Hong Kong. On raconte que dans un quartier de Hong Kong, mesurant environ 1 km², on peut trouver plus de 100 000 personnes. Ceci montre à quel point la Chine est pleine à craquer. Les Chinois me font penser à des fourmis sur un tas de sucre. Elle découvrira également Victoria Peak, qui est le sommet le plus élevé de la région, accessible par un funiculaire qui a été inauguré en 1887. Voici comment elle décrit le panorama qui s'offre à ses yeux depuis Victoria Peak. Le panorama est sublime. La baie, cernée de montagnes, s'étend sous vos yeux, paisible et superbe, et des centaines de bateaux, qui ressemblent à de petits jouets, constellent le tableau. De blanches maisons palatiales s'étalent du rivage étincelant jusqu'au pied de la montagne. Chacune d'elles possède un court de tennis creusé dans la montagne par dynamitage. On dit que la nuit, en contemplant les milliers de lanternes de bateaux, des porteurs, des routes et des maisons, on se sent pris entre deux voûtes étoilées. Après Hong Kong, Nellie Bly met le cap sur Yokohama, au Japon, qui sera sa dernière étape asiatique avant de regagner la côte ouest des États-Unis, où elle doit arriver à San Francisco. Dès son arrivée, Nellie Bly a une impression des plus favorables du Japon. À côté de Hong Kong, avec ses rues grouillantes, ses quais bondés de barques sales aux propriétaires plus sales encore, Yokohama a des airs de grand ménage de printemps. Elle commente longuement les tenues traditionnelles japonaises, en se moquant des tenues masculines, et aura même la dent assez dure au sujet des hommes japonais. Ils ne sont pas des canons de beauté, ils sont petits, taciturnes, et assez peu engageants. Elle considère le Japon comme un pays progressiste, dont le mode de vie est en bien des points supérieur à celui des Américains. Elle note notamment le mélange de tradition et de modernité, puisque les Japonais arborent des tenues vestimentaires traditionnelles, mais n'hésitent pas non plus à s'habiller à la mode européenne. Pour Nellie Bly, le peuple japonais est caractérisé par son élégance et son raffinement. Nellie Bly arrive à San Francisco le 20 juin 1890. Tout au long de sa traversée des États-Unis pour rallier la côte Est, Nellie Bly est acclamée. Elle n'est pas au bout de ses peines, puisqu'un pont situé au Nouveau-Mexique manque de s'effondrer au moment du passage de son train. Le 25 janvier 1890, Nellie Bly arrive en gare de Jersey City, juste en face de New York. Elle a réussi son pari et a bouclé le tour du monde en 72 jours. Afin de lui souhaiter la bienvenue, 10 coups de canon retentissent à Battery Park. Ainsi s'achève ce troisième portrait de la série dédiée aux pionnières. L'intrépide Nellie Bly a réussi à faire un tour du monde en allant plus vite que Phileas Fogg et en prouvant de la plus belle des manières qu'une femme pouvait réaliser cet exploit s'entraîner derrière elle un nombre incalculable de bagages. En 1895, Nellie Bly épouse un millionnaire, Robert Seaman. À partir de ce moment-là, elle va s'éloigner de la sphère journalistique. Son mari dirige une entreprise de fabrication de produits métalliques destinés à recevoir du lait. Elle prendra la direction de l'entreprise à la mort de son époux en 1904. Elle reprendra une activité journalistique après la Première Guerre mondiale jusqu'à sa mort le 27 janvier 1922. Dorothy Maddox, journaliste au Philadelphia Inquirer, célèbre la réussite de Nellie Bly en ces termes. Cette curieuse mais audacieuse aventure fait fi de toutes les règles qui jusqu'alors gouvernaient l'emprise de la presse. Ce tour célèbre l'énergie et le courage de notre sexe, et ouvre grand la porte du succès aux femmes de lettres. Il est la preuve que le sexe faible, quand il est doté d'un esprit sain et d'un corps sain, et est libéré des carcans habituels, peut rivaliser avec les hommes les plus brillants. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle escale.